Imaginaire, c'est le rendez-vous incontournable pour les amoureux et amoureuses de la pop culture. Un mardi sur deux à 21h, on parle littérature populaire, mais aussi jeux, ciné, séries, avec des chroniques, des interviews, sans oublier les invités et l'actualité. Imaginaire, c'est un mardi sur deux à 21h sur Radio G 101.5.
Vous êtes à l'écoute d'Imaginaire, on est ensemble jusqu'à 22h sur le 101.5. Au programme ce soir, tout d'abord les coups de cœur de Karine et puis Pierre-Marie. Une interview inversée de l'auteur de livre-jeu Henri Pichat par Sébastien. Et en deuxième partie d'émission, nous écouterons l'enregistrement de la table ronde « Écrire pour les adultes d'aujourd'hui, penser aux adultes de demain » à laquelle participaient Raphaël Bardas, Katie Stewart et Marine Sivan, qui avait eu lieu donc pendant le dernier salon Imaginaire.
Je vous présente Sombre de Max Monnehet aux éditions Point. Max Monnehet nous embarque dans la vie de Victor Caran, psychologue carcéral à l'île de Ré. Tous les jours, son quotidien se résume à entendre des détenus lui racontant les crimes les plus atroces. Pourtant, c'est lorsqu'il découvre un cadavre sur une plage que sa vie s'effondre, puisqu'il s'agit de Julia. Journaliste et épouse de son meilleur ami, Jonas, elle est surtout la femme qu'il aime secrètement. La descente aux enfers commence, en plus de cauchemars récurrents et secrets lourds à porter. Victor est en quête de réponse. On est pris dans l'histoire dès les premières lignes, avec la mise en avant de personnages complexes et touchants. Victor et Jonas, c'est une forte amitié qui les unit, presque la relation de deux frères. Et pourtant, Victor et Julia entretiennent une relation amoureuse. Ils s'aiment depuis le premier jour. L'intrigue est relativement simple en apparence, mais les personnages ne le sont clairement pas. Et c'est là toute la force de l'autrice. Victor se démène avec ses propres démons et sa culpabilité. Jonas et son admiration sans borne envers Victor. Maddie, la fille de Jonas, qui grandit extrêmement vite. La voisine de Victor, une vieille dame dont la solitude semble la terrasser, si bien qu'elle en devient pénible, mais que l'on n'arrive pas à détester. Marcus, un détenu qui se révèle avoir un grand cœur. Tous ces personnages, des principaux aux secondaires, sont très bien travaillés. Ce roman est un excellent thriller psychologique dont on ne voit absolument pas venir la fin. Je vous invite à le lire et découvrir une autrice de talent. Max Monnehet est une autrice française qui a remporté pour ce roman le prix Transfuge du meilleur espoir polar en 2020. En avril 2023 est paru Je suis le feu, où on retrouve ce personnage de Victor Caran. Auparavant, elle a commencé en littérature blanche avec son titre Corpus Christi, qui a remporté le prix du premier roman en 2006, et Géographie de la bêtise. Une autrice à la plume percutante à suivre impérativement. Et je vous propose maintenant d'écouter le titre Brother in Arms du groupe The Dollsmen sur Radio G. We'll be right back.
Et puis, bah, c'est toujours un vrai plaisir de pouvoir parler de nos passions communes, à savoir la littérature de l'imaginaire. Il y a un mois, il s'est passé deux choses importantes, selon moi. Le Salon Imaginaire et la sortie d'un roman que m'a gentiment fait parvenir Scrinéo, les éditions Scrinéo. La Cité du Savoir est parue en mai 2023 et a été écrit par Nadia Coste. C'est un roman qui est classé en young adult. Pas erreur, à mon sens. On est plus sur de jeunesse, vieille adolescence, que jeune adulte. La nuance est tenue et surtout, elle n'existe pas dans la classification des genres. Mais il me semble que c'est important d'apporter cette précision car quelqu'un qui lit et qui apprécie énormément le young adult pourrait trouver ça un petit peu ennuyant, un petit peu lent et surtout un petit peu simpliste. Et pour cause, ça ne leur est pas destiné. Dedans, pas d'histoire d'amour. Il y a deux personnages principaux, un homme, une femme, un garçon, une fille. Ils sont jeunes d'ailleurs, c'est dit, puisqu'ils commencent leurs études. Et il n'y a absolument aucune ambiguïté sur leur relation, ce sont des amis et c'est tout. Dedans aussi, le fantastique existe. On est quasiment sur un roman de fantasy puisque tout le postulat de l'imaginaire existe à une condition. Est-ce que vous y croyez, vous, lecteur, ou pas ? Je m'explique. Lorsque vous prenez ce roman, ne serait-ce que la couverture, vous sentez le côté très hellénistique, le grec ancien. Cette inspiration est directement mise en avant dans ce roman dès la première page, puisque la première scène, l'incipit, se passe comme une scène d'Aède. Une femme, une Aède du coup, explique à un groupe de jeunes gens une histoire. Est-ce que c'est un mythe ? Est-ce que c'est un conte ? Est-ce que c'est une leçon de vie ? On ne sait pas trop. Mais ça se passe exactement comme à l'époque Homère racontait l'Odyssée. L'idée est d'embarquer les gens et de leur faire prendre conscience de choses. Et l'histoire qu'elle va leur raconter, en deux pages de scène et 300 pages d'histoire, se passe à la fois sur une petite île, Ichlion, et sur une grande cité, Philopolis. Ichlion, c'est la ville dont sont issus les deux jeunes gens, Théo et Sophia. Philopolis, c'est la cité de tous les désirs, là où l'un des deux souhaite aller. On va s'arrêter un peu sur les deux noms. Théo et Sophia, là aussi, énorme référence au monde hellénistique. Théo, le divin, Sophia, la sagesse. Est-il divin ? Est-elle sage ? Vous le découvrirez au fur et à mesure du roman. Mais dès le départ du roman, le postulat de base, qui est « la magie existe », fait apparaître que l'un des deux n'est pas divin et l'autre n'est pas sage. Sophia rêve d'aller donc dans Philopolis, la cité du savoir, là où elle pourra apprendre le pouvoir des mots. Ce n'est pas une licence poétique. Les mots ont un pouvoir, les mots sont porteurs de magie. Il y a trois courants magiques. Celui qui nous permet d'aller voir le futur ou de revivre le passé. Celui qui nous permet de régénérer le corps et l'esprit. Et puis celui qui permet de transformer la matière. On y va pendant une école, on y suit une scolarité. Et si on se loupe à l'examen final, pas de rattrapage, pas de recalage, pas de redoublement, on est touché par une maladie qui s'appelle la dyspnoïa. Maladie qui n'est pas sans rappeler l'autisme. On perd absolument tout contact social, toute capacité sociale et toute capacité émotionnelle. Le savoir reste, c'est tout le reste qui part. Mais impossible de savoir, au début du roman, si cette maladie est dû aux études, ou est-ce que c'est juste le mode de vie des sages ? Car dedans, les sages, les philosophes, ceux qui vivent à Philopolis, ont le savoir mis au sommet de toutes leurs priorités. Ce qui veut dire qu'ils vivent chacun isolés les uns des autres, ne se regroupant que par intérêt. Il n'y a pas de place pour la famille, il n'y a pas de place pour l'émotion, il n'y a pas de place pour les interactions. Tout est destiné à la recherche du savoir et à son utilisation, sous la régie du maître des lieux. Théo, lui, il n'a jamais voulu écrire. Il n'a jamais voulu savoir lire non plus. C'est un petit peu le côté barbare des âges sombres, le spartiate. D'un autre côté, il faut le comprendre, son grand frère a été touché par la dyspnoïa. Alors quand il sait que Sophia, son amie, veut aller dans cette ville-là pour apprendre le savoir, il décide de la suivre. Et il y intègre un autre groupe qui est dans cette cité, la guilde des voleurs. Ce sont des gens qui ne sont pas vraiment des voleurs. On les appelle comme ça parce qu'ils sont là pour voler le savoir. C'est ce qu'ils font. Mais en même temps, ce sont des gens qui, eux, se désignent comme étant les véritables possesseurs de ces terres, qui ont été spoliées par le maître des lieux. Et ils ont un mode de vie qui est totalement aux antipodes des philosophes. Ils se regroupent régulièrement entre eux. Ils cherchent par tous les moyens à avoir une vie interactive, une vie sociale, qui n'est pas dénuée d'absence de recherche de savoir. Ça paye hyper français ce que je viens de dire. Ils cherchent aussi à enrichir leur savoir, mais pas au détriment des interactions. Le social est au-dessus de la quête absolue du savoir. On va donc suivre ces deux personnages-là dans un roman, comme je vous le disais, qui fait à peu près 400 pages et qui est très lent. Sur les 400 pages, je vous dirais bien qu'il y a les 150 dernières pages qui comptent énormément pour faire avancer le récit. Mais en même temps, comme je vous le disais, c'est un roman jeunesse. On pose les bases de jeunes gens qui ont tout à apprendre dans cette école. Il y a des ellipses, difficile de faire tenir plusieurs années dans un seul roman. Regardez Harry Potter. Il y a beaucoup d'ellipses et justement, je trouve que c'est un des énormes points positifs de ce roman, c'est que les ellipses sont utilisées avec extrêmement d'intérêt. Je m'explique. Comme dans chaque année, il y a des épreuves, il y a des concours d'entrée, des concours au fil des années. Et au final, on les voit assez peu. Parce que finalement, expliquer que des gens passent leurs épreuves, leurs concours, il n'y a pas d'intérêt. On a passé toute une année à nous expliquer comment est-ce qu'ils allaient les passer, qu'est-ce qui allait leur advenir. C'est un roman, on sait qu'ils vont continuer après. Pas besoin de l'expliquer, c'est une ellipse. C'est vrai que ça aurait été drôle de voir un petit peu ce qui se passe dans ces épreuves-là, mais on n'en a pas besoin dans le roman. Donc c'est un roman qui peut aller très vite à certains moments, qui utilise un peu de simplification, mais en même temps, qui est là pour aussi donner quelques idées à un jeune lectorat, qui est le public cible de ce roman. Nadia Coste, je l'ai connue dans sa série avec Les Chevaliers de la Raclette, avec Jean-Laurent Del Socorro. C'est une autrice jeunesse, que j'aime beaucoup, qui avait aussi écrit le premier, un roman chez Scrinéo, qui avait été chroniqué à l'époque par Justin Hurle. Mmh. C'était il y a très 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 longtemps, 2015 si je me souviens
L'Antiquité
bien.
L'Antiquité d'Imaginaire.
C'est une autrice que j'apprécie énormément dans sa capacité à jouer sur les atmosphères et sur les insinuations pour un jeune public. Effectivement, quelqu'un qui aime des choses extrêmement poussées, de la hard science ou de la sword and sorcery, n'y trouvera pas son compte. Mais pour le public qu'elle vise, je trouve qu'elle fait partie des excellentes autrices et dont il faut donner le roman à lire absolument. Pour finir cette...
C'est un bel objet avec une couverture de François-Xavier Pavion, avec du lierre qui dégouline hein, sur la couve et tout, des petites... je sais pas comment t'appelles ça.
Ah bah, c'est l'île de Syracuse qu'on voit, l'île blanche avec les... Enfin, c'est l'inspiration, c'est pas l'île de Syracuse, mais c'est l'inspiration des monuments blancs, des toitures bleues, des oliviers, et puis on retrouve toute la scénographie des grands...
Ouais, alors c'est quoi ce marteau et ce végétal-là?
Ce que ça représente, ou ce que, dans le roman ou pour moi? Parce que moi, j'y vois Héphaïstos et Héra.
Ah ouais.
En fait, dedans, le savoir et le pouvoir, toujours.
D'accord.
L'art des mains et l'art de la pensée.
Ok.
Je vous quitte donc avec une magnifique musique que je vous souhaite de découvrir. Coraline, du groupe Maneskin. Maneskin a passé l'Eurovision et représenté l'Italie en 2019, je crois.
Ouais. Ils avaient gagné, non?
Ils avaient gagné avec leur musique Zitti e Buoni. Je vous laisse écouter ça et apprécier du rock italien. Je trouve qu'on en manque énormément.
Sur Radio G.
101.5. À très bientôt.
Merci Pierre-Marie.
Dimmi la tua verità, Coraline, Coraline. 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 Coraline bella come il sole. Corriera dal cuore zelante, capelli come rose rosse, preziosi quei fili di rame, amore portali da me. Se senti campane cantare, vedrai Coraline che piange, che prende il dolore degli altri e poi lo porta dentro lei. E Coraline, Coraline, dimmi le tue verità. Coraline, Coraline, dimmi le tue verità. Coraline, Coraline, dimmi le tue verità. Coraline, Coraline, però lei sa la verità. Non è per tutti andare avanti con il cuore che è diviso in due metà. Che bambina, però sente come un peso e prima o poi si spezzerà e la gente dirà non vale niente, non riesce neanche a uscire da una misera porta, ma un giorno, una volta lei ci riuscirà. Può crescere, prendere le sue cose e poi partire. Ma sento un mostro che la tiene in gabbia, che le ricopre la strada di mine. Detto a Coraline che può crescere, prendere le sue cose e poi partire. Ma Coraline non vuole mangiare, no. Sì, Coraline vorrebbe sparire. E Coraline piange, Coraline all'ansia, Coraline vuole il mare ma paura del. E forse il mare è dentro di lei. E ogni parola è un'ascia, un taglio sulla schiena, come una zattera che naviga in un fiume in piena. E forse il fiume è dentro di lei, di lei. Ciò che respiri, capirò cosa hai dentro e sarò l'acqua da bere, il significato del bene, sarò anche un soldato o la luce di sera e in cambio non chiedo niente, soltanto un sorriso, ogni tua piccola lacrima è oceano sopra il mio. Dentro di lei, di lei. Dimmi le tue verità, Corallina, Corallina, 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 Corallina bella come il sole, ha perso il frutto del suo ventre, non ha conosciuto l'amore. Padre che ti padrà niente, le han detto in città c'è un castello, con mura talmente potenti, che se ci va a vivere dentro, non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più.
Bonjour Sébastien. Eh bien déjà, merci de m'inviter dans ton émission radio pour parler de mon aventure interactive intitulée Froide Latitude. Froide Latitude est une aventure qui se déroule donc dans un cadre arctique et nous incarnons le commandant d'une expédition polaire au 19e siècle. Cette expédition est chargée de trouver le mythique passage du Nord-Ouest qui permettrait de relier l'océan Pacifique à l'océan Atlantique en passant par le cercle polaire arctique. Seulement, les choses ne vont pas se passer comme prévu et notre expédition va devoir tenter de retourner vers la civilisation. Pourquoi j'ai choisi de faire dérouler cette aventure dans un cadre polaire ? Eh bien, tout simplement parce que cette aventure a été écrite dans le cadre du concours Mi Yastromo organisé par le forum Rendez-vous 1 et le site Littéraction sur le thème de la Terra Incognita. Et à l'époque où se déroule mon histoire, c'est-à-dire la fin du 19e siècle, l'océan Arctique et les terres autour du pôle Nord constituaient encore des territoires largement inexplorés. L'autre raison pour laquelle j'ai choisi un univers polaire pour mon aventure, c'est que ça permettait de placer le lecteur et le personnage qu'il incarne dans un milieu extrême où il est extrêmement difficile de survivre longtemps, ce qui en fait un cadre propice pour une aventure pleine de rebondissements, d'imprévus, de décisions difficiles à prendre, de tensions, de stress, etc. Tu m'avais demandé de te poser 3 questions au sujet de cette aventure que tu viens de découvrir. Alors, ma première question est toute simple. As-tu apprécié cette aventure? Et si oui, quel est l'élément que tu as le plus aimé dedans?
Cette aventure de 50 paragraphes m'a emballé, parce qu'elle offre d'abord une foule de choix. Des choix qui sont entre autres formulés par nos officiers et hommes d'équipage, avec qui nous devons apprendre à composer pour survivre. Et l'élément principal qui m'a plu, Henri, c'est d'avoir à traverser 3 zones. La banquise, l'océan Arctique, la taïga sibérienne, avec leurs obstacles et dangers propres, avant de pouvoir recevoir de l'aide de trappeurs russes.
Est-ce que cette aventure t'a appris ou fait découvrir quelque chose au sujet du monde polaire ou des expéditions polaires? Et si oui, quoi en particulier?
J'ai appris, par exemple, que si une expédition polaire comme la nôtre tournait mal, qu'il fallait vraiment faire attention au compte de nos provisions, sans quoi la mort froide nous tombait dessus, privée de nos forces. D'ailleurs, ces provisions ne sont qu'au nombre de 20 points au démarrage de notre périple pour rejoindre le monde civilisé, nord de la Russie. Cela contribue à augmenter l'adrénaline du jeu, pour peu qu'on prenne par moments de mauvaises directions qui les font diminuer, ces provisions, sans gain d'autres nourritures derrière.
Et voici mettons ma dernière question. Est-ce que cette aventure t'a fait penser à d'autres livres dont vous êtes vous-même le héros ou d'autres aventures interactives? Et si oui, lesquelles et pourquoi? Et sinon, peut-être, si c'est pas le cas, peut-être à d'autres films ou livres qui se passeraient dans un milieu extrême ou qui impliqueraient la gestion d'un groupe.
J'ai pensé lors de ma lecture à Piège Arctique de Gauthier Wendling. Piège Arctique, un escape book de 2022, duquel se réchapper demande comme froid de latitude, titre tout aussi accrocheur au passage, de moins faire preuve d'héroïsme, plutôt de circonspection, vu les mille et un périls que je n'aurais pas soupçonnés dans l'Arctique et alentour. Les grottes de Calte également, de Joe Dever, troisième opus de la série Loup Solitaire, pour la beauté, l'ambiance des paysages décrits, jusqu'au point qu'on en imagine facilement les sensations qui en résultent, telle la morsure du froid, potentiellement mortelle. Voilà les amis, ce petit échange que j'ai eu avec Henri Pichat pour vous mettre l'eau à la bouche de Froid de Latitude. Froid de Latitude que vous retrouverez sur le site literaction.fr. Et à la rentrée, nous retrouverons Henri Pichat pour parler d'autres œuvres. Conte du griot céleste, dans l'ombre de 7 collines. Mais je ne vous en dis pas plus, ce sont des aventures qui seront publiées chez Posidonia. Mais pour en savoir plus, je vous dis à la rentrée. Depuis 2 semaines, sur la chaîne Twitch de Paragraphe 14, vers 20h le lundi, je jouquine en public au premier tome de l'épée de légende, Les 13 mages, de Dave Morris et Oliver Johnson. L'épée de légende, je vous l'informe, c'est une série de 5 livres dont vous êtes le héros, aussi incontournable que la saga sorcellerie de 4 tomes à laquelle dernièrement rejoue Romain. Sans triche, hein? Et excellente nouvelle, l'éditeur associatif Alconost vient de lancer une campagne de financement participatif sur Ulule de la réédition de l'épée de légende. Sans les multiples bugs et erreurs de la série existante Gallimard, qui en plus est à des prix inabordables en occasion. Une campagne donc à ne pas louper, amis auditeurs, tant Alconost, dont j'ai brièvement parlé 30 mai, est un éditeur qui conjugue sérieux avec passion. Alconost, un éditeur avec lequel je m'entretiendrai davantage une fois prochaine. Plus, j'en profite pour vous évoquer tout bientôt, vendredi 16 juin, à 18h, l'interview ludologique exclusive sur le Twitch de paragraphe 14 de la personne de Raphaël Lucas. Raphaël Lucas, qui est l'auteur d'un récent essai en quête des livres dont vous êtes le héros chez Ferd Édition. Vos questions posées sur le chat en direct seront relayées par l'intervieweur paragraphe 14 à son invité. Et pour faire écho en ce moment à la vertigineuse tournée Nevermore des stades de Mylène Farmer, écoutons le si beau vertige de cette dernière sur le 101.5 FM pour de nouveaux vertiges de vivre après ceux de Froid de Latitude. Bye bye!
Plus loin, plus haut, l'esprit voyage.
Mesdames et messieurs, on va donc pouvoir entamer cette table ronde. Écrire pour les adultes d'aujourd'hui, penser aux adultes de demain. Un thème extrêmement large. Pour cette table ronde, je suis extrêmement heureux. Il y a beaucoup d'extrêmes dans ce que je raconte, hein, je vous préviens.
Dans les extrêmes.
Toujours dans les extrêmes. Je suis très honoré d'être en présence donc, de Raphaël Bardas, Kathy Stewart et Marine Sivan. Ce sont trois auteurs que je vous encourage à connaître si vous ne connaissez pas, mais qui sont déjà très très connus. Marine, tu es auteure Young Adult avec une nouveauté jeunesse. Et puis tu es institutrice aussi depuis quelques années. Katie, tu vas encore dire que je me trompe, mais tu es nouvelliste.
Oui, principalement. Oui.
Et tu as été CPE pendant de longues années avant de décider d'arrêter et de passer psychologue. Et puis Raphaël,
ça, comme ça.
C'est un nom qu'on a connu il y a quelques années dans le milieu du jeu de rôle, mais voilà. Qui est maintenant connu pour une duologie d'adultes fantastiques. Et puis tu es enseignant documentaliste au collège.
Exactement.
Eh bien, ne perds pas le micro, c'est à toi de te présenter un petit peu.
Oui, professeur documentaliste, depuis quelques années aussi formateur pour adultes, dans des domaines tels que la communication professionnelle, mais dans le milieu éducatif.
Ok.
Voilà, donc ça c'est un de mes dadas. Et sinon, effectivement, mon aventure créative a commencé au début des années 2000, enfin même à la fin des années 90, parce que j'ai développé des jeux de rôle avec les éditions Multisim. À l'époque, Agon, Guild, Rétrofutur. Et plus tard, j'ai créé une structure éditoriale qui s'appelle le Studio Dead Close. Moi, j'ai, à un moment de cette aventure, rencontré le mur du burn-out et j'ai lâché les rênes. Mais le Studio Dead Close, existe encore aujourd'hui. C'est eux, notamment, qui éditent RuneQuest en français.
Et tout ça, donc, cette aventure éditoriale jeu de rôle, c'était pour quel public ? Des profanes, des amateurs, des adultes, des enfants ?
Ben, des jeux comme Agon ou Guild, même s'ils peuvent brasser des thématiques plutôt adultes, 90% du temps, si on fait bien les choses, on peut jouer avec des ados. D'autres, Capharnaüm aussi, qui est vraiment mon projet personnel au départ, est un jeu tout public. En revanche, Rétrofutur ou le pire du pire, Amnesia de K51, sont des jeux d'horreur qui touchent vraiment à l'intime et que moi je ne conseillerais absolument pas à des mineurs, en tout cas pas en dessous de 16 ans.
Marine, tu écris chez Scrineo, tu as deux romans Young Adult chez Scrineo et là tu as un roman qui a quelques jours chez Critique pour de la jeunesse. Ça fait longtemps que tu écris avant d'être publié ?
Alors, j'ai commencé vraiment à écrire de façon sérieuse, on va dire en 2013. C'était après mes études en histoire, ça m'a permis un peu d'être nourrie de toute cette imaginaire à travers les civilisations, etc. Et du coup, je me suis lancée dans l'écriture de nouvelles au début, pour un peu tester différents genres, pour un peu tester ma plume. J'ai eu mes premières publications comme ça, dans des magazines, des fanzines. Et très vite, je me suis tournée vers le roman et le one-shot. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance d'avoir la publication chez Scrineo en premier. Ensuite, je leur en ai proposé un deuxième. Et Critique, c'est eux qui sont venus vers moi avec un travail de commande pour ouvrir leur collection jeunesse.
Donc tu as écrit avec un cahier des charges par rapport à tes deux romans où tu étais libre puisque tu es...
Oui, tout à fait. Ils avaient déjà leur ligne éditoriale qui était fixée avec des impératifs au niveau des personnages, au niveau des thèmes qui devaient être abordés. Mmh. Donc ils sont venus me présenter un peu la collection avec ces grands thèmes. Et moi, je leur ai proposé un pitch, puis un synopsis détaillé. Et là-dessus, ça les a intéressés et on a pu continuer ensemble.
Je reviens un peu sur Raphaël. Dans tes écrits, c'est donc une duologie que tu as écrite. C'était déjà pensé pour être une série ou c'est avec le succès du premier tome, tu as écrit le deuxième tome ?
C'est un peu plus compliqué que ça. Disons que j'avais une première écriture du texte qui contenait beaucoup trop. Et il a fallu tout dézinguer pour recommencer à zéro. Et avec les briques en fait, de ce grand édifice, je suis en train de recomposer autre chose. Donc il peut y en avoir 10. Je n'ai pas prévu d'en écrire 10. C'est pourquoi aussi je travaille en one shot. C'est les mêmes personnages. C'est un concept qui est de travailler sur des personnages bon vivants, tout en riant un peu de certaines représentations du héros tel qu'il est là. Mais... Il n'y a pas de projet de série. Simplement, j'ai une idée, j'ai un univers, j'ai des personnages, j'en fais une histoire.
Oui. Et il reste Katie. Alors Katie, c'est un peu le problème parce que c'est l'auteur inclassable tellement elle est partout.
Oui, c'est l'œuvre de ma vie en fait de devenir inclassable. Et chaque fois qu'on essaie de me figer, je pars ailleurs. Donc Tu parlais d'essayer sa plume en écrivant des nouvelles. Ben, je pense que je vais essayer ma plume jusqu'à ma mort, puisque je suis principalement novelliste. Ce qui ne m'a pas empêché d'écrire un roman autobiographique en 2011, en blanche donc. Mais, et aussi de la science-fiction avec l'Évangile selon Myriam, qui ressemble beaucoup à un roman. On dit que c'est un roman, voilà. Et voilà, des essais, des nouvelles, des fix-up de nouvelles.
De la poésie.
Et de la poésie, bien sûr, que je n'ai jamais laissé tomber et qui revient régulièrement. Puis j'ai quand même réussi à faire un recueil de nouvelles liées par des poèmes en science-fiction, parce que pourquoi pas.
Mais alors du coup, donc on a Marine qui a écrit avec des contraintes pour son roman jeunesse. On a Raphaël qui écrit un petit peu comme il veut, mais en jeu de rôle, il y a aussi des contraintes. Est-ce que toi, tu te poses des contraintes quand tu anticipes l'écriture de quelque chose ?
Alors, bon, s'agissant de la forme courte, il y a déjà l'idée qu'on va faire quelque chose qui tient la route, qui n'a pas besoin d'être écrit pendant des années pour pouvoir tenir la route. Et très souvent, en fait, je vais partir d'une idée et... quand je suis un peu coincée, en fait, je rajoute des contraintes. Donc, je suis vraiment dans l'écriture à contraintes, notamment pour les gens qui me suivent sur Twitter, il y a le défi d'écriture Writeover qui est la contrainte de taille et de régularité et de thème. Et c'est le genre d'espace que j'aime exploser, en fait. Avoir vraiment voilà, plein de contraintes et trouver comment on fait exister de la créativité dans un petit espace.
On a parlé tous les trois de ce que vous êtes en tant qu'auteur, mais pas forcément en tant que personne. Marine, tu es institutrice depuis combien de temps ?
Alors, je suis prof des écoles depuis 10 ans maintenant. Je vais faire ma 11e rentrée là en septembre. Voilà. Et du coup, bah, j'enseigne, je suis prof volante en fait, donc je fais des remplacements. Donc j'enseigne vraiment de la maternelle jusqu'au CM2. Et ça me permet de toucher un petit peu à tout, parce que c'est l'air de rien, le fait d'enseigner en maternelle et le fait d'enseigner du CE1, du CP au CM2, bah, c'est presque des métiers complètement différents, parce qu'on n'a pas du tout la même approche de l'élève, pas du tout la même approche de la pédagogie, pas du tout la même approche de l'organisation au sein d'une classe. Donc c'est très très enrichissant comme ça de toucher un petit peu à tout. Bon, après je vais pas mentir, j'aimerais bien me fixer sur ma classe à un moment, mais en tout cas ces 10 dernières années, ouais, j'ai beaucoup volé dans tout mon département en proche banlieue parisienne, et c'était vraiment enrichissant.
Et qu'est-ce qui t'a fait devenir enseignante?
Un peu par hasard, parce que après mes études d'histoire, je savais pas trop vers quoi me diriger. Je savais que je voulais pas devenir prof dans le secondaire, parce qu'il y avait le côté répétitif qui m'intéressait un petit peu moins. Et du coup, là, je me souviens avoir eu une grande période de blanc où je savais pas du tout quoi faire. J'hésitais à réembrancher sur un autre master pour me perfectionner ou pour m'ouvrir d'autres voies. Et finalement, c'est une amie qui était déjà instite qui m'a dit « Mais Marine, pourquoi tu tentes pas le concours du CRPE, ce qui s'appelait comme ça à l'époque ? Il est encore ouvert, ça pourrait te plaire. » Et c'est comme ça, en fait, presque par hasard, que je me suis lancée dans cette voie. J'ai quand même fait un stage qui était dirigé par des profs enseignants pour voir si ça me plairait ou pas. Et c'est là que j'ai adoré mon métier. Enfin, moi, j'adore mon métier. Et même s'il est difficile, je le quitterai pour rien au monde pour l'instant. Et vraiment, ça s'est fait par hasard, mais ça s'est bien fait. Je me suis rendu compte que j'aime énormément transmettre, j'aime énormément la pédagogie, j'aime énormément le lien qu'on a avec les élèves. Et c'est ça que j'aime bien par rapport au secondaire. Je crois que tu travailles dans le secondaire, du coup. Le fait que bah, nous, on les voit toute l'année et on les voit des plus de 20 heures par semaine. Et on les voit évoluer, en fait, tout au long de l'année. Et ça, c'est hyper riche pour nous.
Katie, toi, tu as aussi été CPE. Comment est-ce que tu es arrivée là-dedans ?
Alors, en fait... Tu disais que je m'étais enfuie, enfin, t'as présenté ça comme si c'était... je me suis pas enfuie du métier. En fait, j'ai été CPE pendant 15 ans. C'est un métier que j'ai eu envie de faire. Au départ, je partais pour être prof de maths, donc... je suis assez vieille pour avoir été emploi jeune de l'éducation nationale et avoir travaillé avec un CPE qui était un CPE de catalogue. J'en ai plus jamais revu d'aussi super après. Et en tout cas, il m'a donné envie de faire ça plutôt que prof de maths. Et donc, voilà, j'ai passé le concours, je l'ai eu. J'ai vu des vieux CPE et je me suis dit, tu peux pas faire une carrière entière. Il faut partir avant d'être comme ça. Donc, j'ai commencé sachant que je ne resterais pas... Je m'étais dit 10 ans, mais en fait, j'ai fait 15 ans. les 5 dernières années sont les années où je me suis formée pour changer de métier et devenir psychologue clinicienne. Donc voilà, je suis partie avant d'être dégoûtée. En tout cas, voilà, j'ai fait les échelons dépression, remise en question, etc. Mais je savais déjà en arrivant que je partirais. J'avais le souci de faire ce métier en étant bien. Et d'ailleurs, ma dernière année, je me suis rendu compte que j'avais vraiment raison, parce qu'il y avait quelque chose qui tient à la fois de la compétence et de l'habitude. Je voyais un gamin qui commençait à m'exposer une situation, ça se déroulait, j'avais des solutions rapidement, mais c'était insatisfaisant dans la mesure où le contact humain n'était plus un contact humain, j'étais la machine à résoudre des problèmes, et je crois qu'il était temps, il était temps de partir. Donc maintenant je travaille avec des personnes âgées, voilà, j'étais la vieille CPE dès le début, maintenant je suis jeune, mes patients me disent tous les jours que je suis jeune, et voilà, ça marche bien.
Et toi, Raphaël, comment est-ce que t'en es arrivé à un CDI ?
Alors, moi, j'étais libraire en région parisienne pendant un temps très court, hein, au début des années 2000 aussi, donc un an et demi, et nécessité de quitter la capitale, de revenir dans ma région d'origine, donc à Orléans, et pas de taf à ce moment-là, voilà, peu de qualifications aussi à ce moment-là, j'avais planté mes études en cours de route parce que des ouvertures dans l'édition du jeu de rôle. Et donc je commençais à travailler le soir à co-gérer une collection aux éditions Multisim, et à vite comprendre que ça ne me rapporterait jamais de quoi payer un loyer, surtout pas à Paris. Donc j'avais ce poste de libraire qui m'aidait un peu à survivre, mais c'était pas assez. Et donc je plaque tout, je quitte la capitale, je reviens en région centre à Orléans, et là ma sœur qui travaille au rectorat me dit: mais tu sais que on recrute des professeurs documentalistes comme ça, contractuel, et puis ça te permet de voir si le métier te plaît. Et puis donc ça, c'est en 2002. En 2002, j'essaye. Je deviens à l'époque ce que je voyais comme ce qu'on appelait la dame des livres ou la dame du CDI. Et j'ai vite compris qu'on se trompait aussi pas mal sur la fonction. Et donc, voilà, c'est comme ça. Il y a 20 ans, je suis rentré dans le métier. Un peu plus de 20 ans, 21 ans. Mais j'ai été contractuel une dizaine d'années. Avant de vraiment réussir à avoir le concours, réussir à remplir toutes les cases pour le faire. Moi, là où ça a été une vraie découverte, ce métier, c'est que pourquoi je me retrouve là ? Parce qu'on me dit, bah, y a des bouquins, c'est ton truc, va dans les bouquins. D'accord, je vais dans les bouquins. Mais je m'aperçois bien rapidement que même il y a 20 ans, les élèves qui venaient au CDI, c'était pas nécessairement pour trouver une bonne lecture, c'était surtout pour du travail. Et que nous, on avait un vrai boulot pour leur vendre de la lecture, pour leur donner le goût et leur proposer des textes qui les intéresseront. Mais le gros du métier, c'était d'encadrer du travail d'élèves. Et là, je me suis rendu compte que travailler avec des ados ou des jeunes adultes, parce que j'ai commencé en lycée, enfin des très jeunes adultes, c'était une chose qui m'intéressait beaucoup. Et c'est plus pour ça que je suis resté que pour le livre au départ.
Et je souriais parce que... Bon, ça se voit pas que je souris. Je souriais sous mon masque. Parce qu'en fait, j'étais en Belgique quand j'ai décidé de passer le concours de CPE. Et j'avais sur ma table deux dossiers de concours que j'avais demandé, que j'avais fait venir de France. Et c'était concours bibliothécaire et concours CPE. Et j'arrivais pas à choisir. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Et je regardais les dates, en fait. Et c'était plus confortable pour moi de préparer le concours CPE, donc j'ai fait ça en disant, c'est pas grave, tu changeras d'avis plus tard. Enfin, j'étais déjà dans ce truc de pas choisir, voilà.
Bah, on va rester avec le fait de pas choisir. Parmi tout ce que tu as écrit, est-ce qu'il y a un genre qui te plaît plus, qui est plus facile pour toi d'écrire ?
Je m'empêche pas, quand je fais de la science-fiction, d'avoir des apports poétiques. Évidemment que j'utilise des mots et que je raconte des histoires et qu'une partie des choses pourrait très bien se passer maintenant. Donc voilà, quand je veux un maximum d'ouverture, c'est vers la science-fiction que je vais.
Et après, tu as écrit un roman, enfin un livre qu'on désigne comme étant un roman selon toi. Est-ce que ça a été une contrainte d'écrire un roman ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as apprécié faire ? Ou c'était...
Alors, j'avais déjà écrit un roman, puisque j'avais écrit mon roman autobiographique qui s'appelle Noir sur Blanc, et qui est construit un peu de la même manière, c'est-à-dire que c'est des faux romans. C'est écrit par petits bouts. Moi, je travaille vraiment la petite taille et je fais mes briques. Et puis après, je les mets ensemble, qui est une autre étape. Et donc, quand on regarde l'Évangile selon Myriam, alors on ne peut pas le lire par petits bouts, mais je l'ai construit par petits bouts. Toute la cohérence, c'est ça qui va rajouter un niveau au texte. Donc pour situer, c'est Myriam dans le futur qui se retrouve à refaire un livre sacré avec ce qui reste de nos textes à nous et qui va faire le travail que j'ai fait moi, c'est-à-dire prendre des petites choses un peu disparates et faire une cohérence avec ça. Donc elle ne fait pas la différence entre le petit chaperon rouge et l'histoire d'Adam et Ève. Et puis pourquoi elle ferait cette différence? Ça ne sert à rien, ça n'a pas de sens pour elle dans son existence. Donc ce travail que elle fait, que je présente comme étant son travail, ben c'est comme ça que j'ai travaillé aussi. En ayant ces petits bouts d'histoire et en faisant comme un grand puzzle en fait. Et mon apport à la fin, c'est cette colle en fait. Comment on colle ces morceaux ensemble pour qu'ils disent quelque chose de plus que chaque petit bout d'histoire? Et je l'ai travaillé comme on travaille un recueil de nouvelles. Enfin, j'ai jamais fait de recueil de nouvelles qui soit juste une collection. J'ai toujours cherché à ce qu'il y ait une cohérence et qu'il y ait une histoire. Et donc oui, c'est un roman. C'est un roman bizarre, mais c'est un roman.
Et du coup, si demain on te proposait un contrat pour écrire un roman, est-ce que tu irais avec joie ou...
C'est pas le genre de travail sur lequel je serais ravie d'avoir un contrat. J'ai des contrats de commandes pour des nouvelles et avant de les faire, je m'assure d'avoir le plus de liberté possible parce que c'est ce qui m'intéresse, la liberté. Et puis j'ai cette manière aussi de travailler qui fait que si je connais l'histoire, j'arrive pas à l'écrire. Donc par rapport à une commande, c'est un peu compliqué. Maintenant, est-ce que j'irai avec plaisir si j'y trouve mon compte et si j'arrive à... Voilà, à faire du surf comme je fais d'habitude, pourquoi pas. Mais vraiment, comme je disais, mon objectif, c'est d'arriver à écrire une histoire en 3 mots. Tu vois.
Un haïku, quoi.
Plus c'est petit, c'est le souci du sens des mots. Je m'éclate dans les write ever. Un tweet, c'est pas beaucoup. Ben, si j'arrive à faire une histoire en un tweet, parfois moins. Parce que je l'ai fait de plus en plus petite. Et le jour où je serai satisfaite, c'est quand j'aurai fait mes histoires en 3 mots. Mais...
Marine, toi, tu écris des romans. On ne te connaît d'ailleurs quasiment que avec tes romans. Est-ce que c'est ton genre de prédilection après t'être essayée à la nouvelle ou...
Oui, Clarence, je ne suis pas du tout une bonne novelliste. Donc, moi, au contraire, ça me frustre de devoir écrire sur un format très court. Parce que j'aime bien pouvoir développer notamment les personnages. Donc, c'est quelque chose. Ce qu'on peut très bien faire quand on est un bon novelliste, c'est pas mon cas. Donc du coup, j'ai très vite une frustration et en plus, j'arrive jamais à trouver des bonnes chutes. Enfin voilà, il y a un côté un peu trop compact pour moi en tout cas. Et du coup, je m'amuse beaucoup plus dans des formats plus longs. Je vais pas non plus écrire des mammouths, mais c'est vrai que voilà, des romans en one shot, c'est vraiment ce qui me correspond bien. Et contrairement à toi, du coup, moi c'est l'inverse. J'ai besoin de beaucoup planifier. Donc j'ai toujours le début, le milieu, la fin très très clair en tête. Et si j'ai pas ça, je me sens un peu perdu et j'ai du mal à avancer. Donc c'est bizarre.
Là, c'est une question de densité, puisque comme disait Katie, elle cherche à avoir le maximum de sens en le minimum de mots.
Ça sera pas la même, déjà. Ça sera pas la même. Et moi, je trouve ça intéressant quand je discute avec des gens qui écrivent de voir qu'on fait pas tous la même chose, qu'on cherche pas tous la même chose, et qu'il y a différents rapports aux mots et différents rapports au texte. Et moi, je suis fascinée en fait par les gens qui planifient autant et qui arrivent à s'éclater en écrivant, parce que moi, je pourrais pas. Mais je suis arrivée quand même à la conclusion qu'il y a des étapes qu'on fait tous. On les fait juste pas au même moment. Moi, quand je colle mes petits morceaux pour que ça ait du sens, en fait, c'est à ce moment-là que je planifie, moi. Et toi, le moment où tu écris, c'est là que tu es dans un peu le chaos qui est ce par quoi je commence. Donc, je crois que c'est vraiment en fonction de comment on est, comment on voit les choses, la notion d'ordre qu'on a, ce qui nous fait peur aussi. Moi, j'adore me jeter à l'eau. J'aime pas... tu disais que j'étais inclassable. Voilà, j'aime pas les trucs balisés. Je sais pas comment j'ai fait pour bosser à l'Éducation nationale. Pendant 15 ans. Bah si, parce que j'étais en vie scolaire, donc j'avais ma zone de chaos qui était à moi et que je gérais, et pour le coup le chaos il arrivait, il y avait de quoi faire. C'était bien aussi d'avoir cet esprit brouillon et de se faire un chemin dans le bordel en fait. C'était ça que je faisais, trouver des solutions dans des trucs juste impossibles. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça intéressant qu'on ait des approches hyper différentes. Parfois, je me désole qu'on considère que la nouvelle, c'est pour se faire la main et c'est un exercice. Et quand tu seras grande, tu écriras des vraies histoires. En fait, tout le monde n'est pas novelliste. Et je reconnais quand je lis des nouvelles de gens qui ne sont pas novellistes. Je fais, mais c'est quelqu'un qui a dû souffrir, qui avait plein de trucs à raconter, qui était là et qui est en train de se restreindre et qui, enfin, personne n'est content, ni le lecteur ni l'auteur, parce que on se retrouve dans quelque chose qui est pas prévu, quoi.
Malheureusement, de nombreux éditeurs, j'ai l'impression aujourd'hui, sont frileux à l'idée d'éditer de la nouvelle, parce que c'est pas ce qui se place le plus facilement en librairie, c'est pas ce qui se vend le mieux, et c'est dommage, parce qu'il y a plein de gens qui, justement, comme tu dis, c'est un métier novelliste, c'est pas que une façon de s'entraîner, et il y a des gens qui sont de grands novellistes et qui vont pas forcément réussir à publier parce qu'on prendra pas le risque.
Moi, j'ai pas mal de lecteurs, surtout des lectrices d'ailleurs, qui viennent me voir. Ce sont des mamans. Beaucoup de mamans qui me disent je suis super contente qu'il y ait des nouvelles, qu'il y ait un recueil de nouvelles, parce que je peux le lire à mon rythme, ça, c'est compatible avec ma vie de tous les jours. Ben, sauf qu'en SF, les mamans, elles n'existaient pas en fait. Elles n'étaient pas considérées comme faisant partie du lectorat alors qu'elles étaient déjà là. Et il y avait des a priori comme ça, des éditeurs, mais combien de fois on m'a dit mais non, mais la nouvelle ne se vend pas. Et puis ça donne un prétexte pour rien faire, pour la vendre différemment aussi, parce que si on essaie de vendre une nouvelle comme on vend une saga, ben ça marche pas en fait. Ça marche pas du tout, on s'adresse pas aux bonnes personnes, et on reste en fait, on reproduit le truc en disant bah vous voyez ça marche pas. Bah oui, ça marche pas parce qu'on n'a pas essayé de s'adapter. Et je pense que ça c'est en train déjà de changer.
C'est souhaitable en tout cas.
Oui, c'est en train de changer maintenant, c'est un peu lent. Mais voilà, ça, je pense que ça bouge.
On termine cette émission avec les chats que vous verrez peut-être au Hellfest vendredi prochain. On se retrouve dans 2 semaines sur le 101.5. Restez à l'écoute, les voix du scénarium dans 3 minutes.
Radio G.
101.5 FM.
Une fois de plus, nous interrompons les émissions prévues au programme. Ici le Joker, parlant de sa cachette secrète.
Comme le Joker, tu as envie que ta radio t'en fasse voir de toutes les couleurs. C'est possible avec le meilleur de la BD, du comics et du manga, dans la case de Seb. C'est tous les lundis en semaine impaire de 19h à 20h et c'est sur le 101.5 de Radio G.